Vous êtes sur RTL. RTL.
Le pass sanitaire, précisément, l'Assemblée nationale a voté cette nuit ce pass sanitaire pour les grands événements, les stades de football, les concerts. Et nous sommes donc avec Mathieu qui disait « liberticide et inévitable », ce qui paraît un oxymore.
Oui, tout à fait. Enfin, faut rappeler aussi, Pascal, que je suis aussi patron de discothèque.
Ah, voilà. Donc effectivement, vous y voyez votre propre intérêt, ce que je comprends, parce que vous n'avez pas travaillé depuis 14 mois.
Avec hier, on a vécu quand même un truc plutôt incroyable dans l'Assemblée nationale, où on nous dit, bon, on va vous rouvrir début juillet, et d'un coup, Olivier Véran revient avec 100 députés, et refait voter, parce que ça leur plaisait pas, et ils nous disent, bah non, en fait, non, on ne rouvrait pas. L'ascenseur émotionnel en 2 heures de temps, à peu près. C'est vraiment incroyable. Donc oui, pour revenir, Olivier Véran est plutôt contre pour les discothèques, pour le pass sanitaire, parce qu'il pense qu'on est un petit commerce, ça serait plutôt limité aux grands événements. Mais effectivement, malheureusement, j'ai l'impression que ça va être obligatoire. La question vraie de tout ça, c'est qu'ils sont en train de parler de mettre ce pass sanitaire, mais c'est surtout qu'il va falloir des moyens, parce que si on parle surtout sur la jeunesse, je pense aussi au festival, hein, il n'y a pas que les discothèques, il va falloir pouvoir les tester rapidement, et en plus les jeunes, ils vont se décider peut-être des fois 1 heure ou 2 heures avant d'aller dans certains événements, et je pense aussi si les discothèques ça devenait obligatoire. Et le problème, c'est que je prends le cas de ma ville à Saint-Lô, le centre de test n'est pas ouvert en permanence, et ça, personne n'a l'air de s'interroger de cette question-là.
Mais alors, ça sera quoi le pass sanitaire ? Ça sera de montrer qu'on a été, par exemple, vacciné, ou ça sera de montrer qu'on a eu un PCR qui a 24 heures ou 48 heures ?
C'est les deux. C'est-à-dire, soit vous êtes vacciné, soit vous avez été testé avec un test PCR.
Oui, mais alors, qui va payer ce test PCR ?
Ah bah, je pense que c'est l'État, enfin, du moins j'espère.
Oui, donc c'est formidable, donc c'est 75 euros
enfin, on n'est plus à ça près. Hein.
Ah bah non, mais je suis d'accord avec vous, mais donc on va faire tous des tests quand on va aller au stade, quand on va aller en boîte de nuit, pourquoi pas, etc. Et c'est l'État qui paye, 75 euros.
Il y a quand même une contradiction, parce que je veux bien entendre le test PCR, mais malheureusement, le pass sanitaire, c'est qu'il faut quand même comprendre. Ça veut dire que quelqu'un qui est déjà vacciné peut attraper et porteur du Covid sans avoir les formes graves, et quelqu'un qui aura un test PCR qui va rentrer dans un grand événement, par exemple, qui rentre testé sain, n'a pas le Covid, mais la personne qui est vaccinée peut lui refiler le Covid. Donc, à un moment, je me pose quand même la question de l'intérêt de tout ça.
C'est qu'en plus, je vois pas, on connaît tous les boîtes de nuit, c'est-à-dire que vous entrez, il est minuit, il y a le videur qui est là, qui vous fait rentrer. Évidemment que j'ai peur que l'application ne soit pas scrupuleuse. Première chose, vous en conviendrez, parce que il va avoir une forme de tolérance. Le videur, il connaît ceux qui rentrent, qui sortent, etc. C'est parfois déshabitué. Si le type est venu il y a 48 heures, qui vient régulièrement, qu'il n'a pas son test PCR, j'ai peur que ce soit pas scrupuleux.
Pascal, je me permets de vous couper quand même, parce que là, actuellement, on parle quand même après 30 juin de rouverture des salles des fêtes pour les mariages. Et j'ai envie de vous dire, on est tous d'accord, on a tous participé à un mariage. Il y a souvent un DJ ou un orchestre qui joue. Oui. Il y a des gens qui dansent, qui s'amusent.
C'est le principe du mariage.
Ben oui, là, intergénérationnel, tout le monde se fait des bisous, c'est la fête.
Oui.
Et par contre, de l'autre côté, on explique que les boîtes de nuit, c'est pas possible. C'est ça, là. Il y a des contradictions de partout.
Mais vous avez entendu ce député hier qui a pris la parole pour parler des clubs libertins.
Philippe Gosselin, qui est mon député.
Eh ben, c'est votre député. Alors, en fait, ce que j'ai appris, c'est que les clubs libertins sont dans la même catégorie que les bars restaurants. C'est la catégorie N, je crois.
C'est ça.
Et les clubs.
Par contre, ils ont le type P, ils font aussi danser.
Voilà. Et en revanche, les discothèques, c'est le type P, si j'ai bien compris. Alors, le paradoxe, c'est que les clubs libertins, par exemple, pourraient rouvrir le 19 mai. S'ils avaient une terrasse en extérieur, mais convenez que c'est assez rare qu'un club libertin ait une terrasse.
Mais il est peut-être possible que le préservatif soit la solution de tout au niveau des gestes barrières.
D'ailleurs, c'est un pléonasme, la terrasse est toujours en extérieur, si vous me permettez. Alors, ils ne rouvriront que le 9 juin, évidemment, ces clubs libertins, vous voyez, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai entendu M. Gosselin, mais en soi, il pourrait, je le répète, rouvrir le 19 mai s'il possédait une terrasse, qui serait assez étonnant.
Voilà. Mais c'est un peu comme pour nos amis restaurateurs et bars, va falloir espérer qu'il fasse beau. Hein.
Ah ben oui, bah écoutez, on est au mois de mai, de toute façon. Ah. Mais alors, en revanche, j'ai une petite info à vous donner. Elle n'est pas encore aussi précise, mais je connais les contours de la décision. Manifestement, Bruno Le Maire va revenir, et Jean Castex, donc, sur la jauge en terrasse. Voilà. Ah. Ça sera pas 50% pour tout le monde. Ça va être affiné, parce que manifestement, il y avait des gens qui avaient 6 places en terrasse, donc tu veux pas leur prendre 50% de la terrasse. Donc ça va être affiné. Quand est-ce que ça... Ben oui, ben c'était quand même très très étrange.
Voilà.
Bon. Comme on n'a pas trop l'occasion de rire en ce moment, je vois que j'ai fait rire Greg Caradoni, ce qui est plutôt une bonne chose.
Non, j'ai juste noté que vous êtes très pointu sur le sujet de la réouverture des clubs échangistes.
Non, d'abord c'est des clubs libertins, soyons précis.
Pardon, vous induire en erreur.
Je suis toujours précis sur l'actualité. Il se trouve que les clubs libertins l'étaient par l'intervention de Monsieur Gosselin, mais pas de plaisanterie cabreuse, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment ni l'heure. Pas vous, pas ça, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Merci, vraiment merci Mathieu.
Merci Pascal.
Vraiment merci Mathieu, et puis bonne chance pour votre discothèque, vraiment. Et on parle de ce pass entre la théorie qu'on a tous, hein, de ne pas faire des choses discriminantes, et puis en même temps la pratique, puisqu'il faut que la vie reprenne et que ça peut être une bonne solution. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et j'espère, Greg, que nous réécouterons, ou que nous écouterons d'ailleurs, Indochine, qui prépare un grand concert.
Avec plaisir.
Et comme le disait Christelle Robière, qui a demandé la Lune et qui l'a eue. Référence à une de ses chansons.
Ah bon ? Ce serait pas « J'ai demandé à la Lune », la référence ? Oh, mais quelle culture, Pascal !
Laurent,
c'est bien, vous payez les clubs.
Laurent Tessier,
juste avant la publicité, sans transition.
Qu'est-ce qui se passe, Laurent ? Je vous ai pas entendu là, par exemple. Vous parlez dans votre barbe.
Vous parliez des clubs libertins juste avant la publicité.
Oh,
et là, j'ai demandé à la Lune.
On va pas reparler.
Sans transition. C'est le sujet qui vous fait rire.
Non, s'il vous plaît. Messieurs, dames, les auditeurs, vous n'avez rien entendu. Je ne valide pas cette plaisanterie de garde champêtre. Allez.
C'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Êtes-vous favorable au pass sanitaire pour l'accès aux grands événements ? Êtes-vous prêt à présenter un justificatif de vaccination, un résultat négatif d'un test, et ben ce pass sera exigé pour les spectateurs Roland-Garros. Et pour les concerts, Nicolas Dupeu, le directeur général de l'Accor Arena Paris-Bercy, était l'invité de RTL Midi.
On considère qu'il va y avoir deux périodes. Une période un peu transitoire, ce qui s'ouvre dès à présent, dès les mesures gouvernementales, notamment celle de fin juin, début juillet, qui nous permet de rouvrir sans restriction de jauge. Là, il y aura un pass sanitaire. Ensuite, on espère que dans 6 mois, dans 9 mois, quand ça ira mieux, quand la vaccination sera totale sur la population, qu'on revienne peut-être en allégeant un peu ce pass sanitaire. Mais en tout cas, moi, je considère ce pass, il est essentiel. Sinon, on réouvre dans 9 mois, en fait.
Alors, le pass sanitaire, pour ou contre ? Eh bien, c'est un grand non pour Eric sur notre page Facebook. C'est une atteinte à notre liberté de circuler. Demandons l'avis à la population par référendum. Ça devient n'importe quoi pour Pierre-Jean. À quoi bon donner notre avis alors que le gouvernement a déjà pris sa décision ? On le répète, rajoute Cathy, il faut apprendre à vivre avec le Covid. Laissez-nous revivre, nous amuser, chanter, faire la fête. Mais José y est complètement favorable. Vu le manque de respect des gestes barrières de certains, c'est le seul moyen pour être tranquille lors des grands événements.
Merci Laurent. Alors, c'est quoi le pass sanitaire ? C'est un certificat de vaccination ou, à minima, le résultat de tests PCR ou antigéniques, ou un certificat de rétablissement du Covid-19 de moins de 2 mois délivré par votre médecin. Et si vous le souhaitez, ces 3 documents pourront ensuite être stockés sur l'application Tous Anti-Covid. Vous pourrez aussi montrer ces justificatifs au format papier. Donc, vous arrivez à minuit et puis vous baladez avec tout ça sur vous pour entrer dans une boîte de nuit. L'Assemblée nationale a adopté hier, 208 voix contre 85. Nous sommes avec Régis sur le pass sanitaire. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous dirigez une agence événementielle. Donc vous, pareil, vous êtes percuté de plein fouet parce qu'il n'y a plus d'événements en fait depuis un an.
Depuis février l'année dernière, il ne se passe plus rien du tout. Donc moi, ce passe, je suis favorable à 200%, tout simplement, puisque c'est la seule chose qui va nous permettre de pouvoir retravailler et d'organiser. Je comprends que certains soient contre, mais d'un autre côté, je me dis, moi j'ai pris un pseudo-risque de me faire vacciner, et je devrais encore être pénalisé de pouvoir aller moi-même participer, aller au cinéma, aller au concert, je devrais pouvoir ne pas pouvoir y aller, qu'il n'y ait aucune organisation, parce que le pass n'est pas obligatoire, donc on ne peut pas contrôler, on ne fait rien.
Non, donc, mais ce qui est difficile dans cette disposition, c'est que ça revient, le pass sanitaire, à une obligation de se faire vacciner pour pouvoir vivre librement. C'est ça que ça veut dire. Donc ça peut être choquant, il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Bon, après, il y a plein de conséquences. Si vous vous faites vacciner et que vous avez un problème ensuite lié au vaccin, pour X raisons, c'est l'État qui va être responsable ? Moi, je vous pose la question.
Mais c'est ça, c'est qu'on recherche maintenant une responsabilité à chaque fois, et surtout, les vaccins, c'est pas d'aujourd'hui qu'on les fait, qu'on se fait vacciner.
J'entends ce que vous dites, moi je suis un pro-vaccin, j'ai pas de soucis, mais quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner, c'est son droit. Donc vous lui dites, tu n'as pas le droit de vivre comme les autres. En théorie, ça peut être un problème en théorie.
Ah ben, je vais soulever sûrement des gens qui vont râler. Mais non, t'es pas vacciné, tu veux pas te faire vacciner, tu veux pas aller au cinéma, tu vas pas au cinéma. Parce que moi, j'ai quand même des témoignages de gens, là, depuis qu'on a quand même parlé du pass, des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Je parle des gens de plus de 50 ans, qui avaient accès au vaccin. Qui ne voulaient pas, et qui là commencent maintenant à dire « Ah ben oui, finalement, je vais peut-être le faire. »
Non, mais c'est leur droit, Régis.
Mais oui, non, Pascal, je ne suis pas d'accord. Tant qu'on ne leur a parlé pas du pass, qu'il allait certainement pas être obligatoire, ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et maintenant qu'on leur dit que ce pass va être obligatoire pour pouvoir vivre, ils veulent bien se faire vacciner. Non.
Vous n'êtes pas d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire, je ne suis pas d'accord?
Et ces mêmes-là vont, d'ici quelques temps, vont râler. Oui, comment ça se fait? Je veux aller me faire vacciner. Il n'y a pas de place. Je ne peux pas avoir de rendez-vous parce que ça sera les mêmes. Les éternels râleurs.
Régis, on peut. Je veux dire, chacun a le droit de se faire vacciner ou pas.
Ok. C'est d'accord.
Vous n'êtes pas forcément un râleur si vous ne voulez pas vous faire vacciner. C'est un choix individuel quand même. C'est important dans notre société de préserver ça.
C'est un choix individuel, mais moi j'ai le droit aussi de pouvoir travailler, de faire vivre mon entreprise.
Ah oui,
moi,
c'est pour ça que.
Pour pouvoir faire vivre nos entreprises, il faudra qu'on passe par ce pass sanitaire, malheureusement. Et après, le pass sanitaire, c'est pareil. Moi, je vois dans mon métier, moi, dans les organisations que je fais, moins de 1000 personnes, on n'aura pas besoin du pass sanitaire. Donc, ça va quand même limiter. Ça va être pour les concerts, surtout pour les gros rassemblements, les salons.
Bon, mais en tout cas, merci, Régis. Vous avez déjà des commandes d'imaginer? Ça commence à reprendre un peu l'activité dans les résidentiels.
Voilà, le téléphone sonne. Le téléphone sonne de nouveau. Je voudrais juste rajouter quand même quelque chose, Pascal.
Je voudrais
quand même remercier le gouvernement. Je ne fais pas de politique. Des aides qu'on a fait, parce que si on n'avait pas eu le chômage partiel et le fonds de solidarité qu'on a depuis le mois d'octobre, on ne l'avait pas avant, on serait mort. Il y aurait un paquet de boîtes qui seraient mortes. Là, on tient. On ne gagne pas d'argent, on ne perd pas trop d'argent, on se tient et on garde la motivation. Merci au gouvernement d'avoir fait ça.
C'est bien de le dire comme ça. Vous voyez, Régis, c'est intéressant et c'est effectivement, beaucoup de boîtes, on peut l'imaginer, seraient mortes.
Mais bien sûr.
Merci beaucoup, Régis.
Merci, Pascal.
Vraiment, en Seine-Maritime. À très bientôt. Vous savez qu'on est mercredi et que demain c'est le pont de l'Ascension. Jeudi c'est l'Ascension et le pont de l'Ascension c'est vendredi. Donc il y a peut-être pas mal de gens qui sont sur la route et ça tombe bien parce que c'est toujours un sujet que nous adorons. Quel conducteur êtes-vous au volant? Cher Greg, vous êtes un conducteur de trottinette.
Oui, donc, il m'arrive de prendre une voiture de temps en temps. Ah bon. Je suis serein et paisible.
Par exemple, est-ce que vous avez une mauvaise habitude?
Au volant, vous voulez dire?
Oui, je...
Non, pas dans ma vie, je sais, ça n'intéresserait personne.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites en permanence et qui n'est pas bien?
J'ai tendance à klaxonner un peu plus qu'il ne le faudrait.
D'accord.
Et m'agacer. Parce que les voitures n'avancent pas assez vite à mon goût, oui.
Bon, oui, effectivement. Alors ça, c'est 25% des automobilistes, par exemple, d'Île-de-France, sont déjà descendus de leur voiture pour s'expliquer. Ça vous est arrivé de...
Non, j'ai pas ce courage.
Jamais. Vous êtes un pleutre, en plus. Bon, non, mais c'est intéressant, par exemple. Est-ce que vous êtes jamais vous êtes descendu de votre voiture?
Je n'ai jamais été confronté à une situation qui m'emmenait à cette...
Les Normands sont les plus calmes au volant, avec seulement 55% des conducteurs qui admettent insulter d'autres automobilistes
ça
conduisant. Hein. Et puis sur l'incivilité au volant, l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur se disputent la première place. Les coups de klaxon arrivent en tête à Paris, 65%, juste devant Marseille, 64%, loin de la moyenne nationale qui s'établit à 53%. En fait, c'est un match entre Paris et Marseille. C'est
comme
une sorte
toujours
de classico. Appelez-nous là aussi.
Vous êtes calme au volant, vous ?
Moi, je suis très calme.
Moi, oui, parce que vous êtes derrière avec votre chauffeur
mon
qui
chauffeur,
gère.
Bien sûr, voilà. Mon chauffeur, bien sûr. Vous avez bien raison pour rentrer dans mon hôtel particulier.
Tout à fait.
Bien évidemment. Ou des gens m'attendent qui me servent tous les soirs, etc. Et ça, bien sûr. Vous avez parfaitement raison. 13h19, il est mercredi. La pause et à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le pass sanitaire. Et vous savez que l'exécutif a dû demander une seconde délibération nocturne sur le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire. L'article 1er du texte avait été rejeté en fin de journée par l'Assemblée, y compris par les élus MoDem, membres de la majorité, mais très critiques sur le flou du projet de loi. Désormais, ce pass sanitaire est adopté. Nous sommes avec David, qui est étudiant à Sciences Po Aix-en-Provence.
Bonjour Pascal.
Bonjour. Écoutez, ça va très bien. Et à 20 ans, vous êtes concerné notamment par les boîtes de nuit.
Bien sûr. Ah bah à Aix, je peux vous dire que tout est fermé, et ce depuis septembre. Hein. Il y a aucune vie étudiante et aucune vie vraiment sociale, de rencontres, de fêtes. Vraiment, ouais, plus que concerné effectivement.
Bon, vous validez ?
Moi, je suis pour le passeport vaccinal. Ouais, bien sûr. Ça fait un an et demi là, ça devient beaucoup trop. Rien que pour les jeunes, même les moins jeunes, mais surtout pour les commerçants. Moi, je rencontre, vous savez, c'est un petit peu à la villageoise, je rencontre beaucoup de commerçants et je peux vous dire que c'est très, très difficile.
Mais je vois pas comment on va l'adopter, moi. Je vois pas comment on va l'adopter dans la vraie vie. Vous allez rentrer, alors avec votre passe, c'est qui va faire la police ? C'est le tenancier de boîte de nuit ? C'est le propriétaire du commerce ? Convenez que c'est pas très facile. On n'est pas habitué à faire la police.
Non, on n'est pas habitué, mais je pense qu'il en ira vraiment de la responsabilité des Français, hein. Franchement.
Hein. Ah, et puis, pardonnez-moi, mais si c'est cet argument-là, les gens, d'abord, je pense qu'il y en a qui vont tricher, qui vont faire des faux passeports, des faux passes sanitaires, j'imagine, que ça va être. Ça me paraît très, très étrange à mettre en place.
Bien sûr. Mais Pascal, c'est une nécessité, hein, le passeport, hein, sérieusement. Dans tous les pays, moi je pense que si on fait débat autour du passeport vaccinal aujourd'hui, et si on est amené à en parler ensemble, c'est qu'il y a vraiment une défiance vis-à-vis des élites aujourd'hui, je pense. Il y a plein de pays comme Israël, où les gens ont vraiment couru pour aller se vacciner, mais c'est parce qu'ils avaient confiance en leurs élites. Et je pense que si aujourd'hui il y a vraiment un débat autour du passeport vaccinal, c'est parce qu'on a été mené en bateau par des élites qui naviguaient à vue et qui étaient vraiment presque amateurs, quoi. Donc on n'a plus confiance en nos élites et forcément ça fait débat, surtout avec le peuple français qui a l'habitude des débats, quoi.
Bon, en tout cas, pour vous qui êtes étudiant, alors là vous allez passer vos cours, vos examens en fin d'année.
Et oui, j'ai mes partiels maintenus en présentiel, exceptionnellement à Sciences Po. Et ouais, c'est lundi prochain, exactement.
Vous êtes en première, deuxième année de Sciences Po ?
Première année, ouais, après une année de préparation.
Et qu'est-ce que vous imaginez faire une fois que vous serez sorti de Sciences Po Aix ?
Ah bah, je vais pas vous mentir, je suis un très grand fan des chaînes d'infos, particulièrement CNews et l'actualité politique, la vie politique, les médias, l'opinion, c'est quelque chose qui m'attire particulièrement. Donc pourquoi pas bosser, travailler en tant que chroniqueur, journaliste dans une grande chaîne d'infos.
Bah écoutez, voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, parce que c'est un beau métier, croyez-moi, métier, parce qu'on traverse ce métier avec une chose qui n'a pas de prix, qui est le plaisir.
On l'observe en vous écoutant avec grand plaisir, Pascal.
Bon, bah, c'est gentil, David. Théo, à votre âge, il habite à Strasbourg, il est étudiant en droit également. Bonjour Théo.
Oui, bonjour Pascal, vous allez bien ?
Mais écoutez, ça va très bien, et vous ?
Ça va super. Oui, moi j'aurais voulu m'exprimer sur le passeport vaccinal. Moi, je suis... alors déjà, j'aimerais quand même mettre en avant que son adoption s'est faite de manière assez, assez bancal, hein, parce qu'il a été refusé en première délibération, mais c'est pas la première fois que ça se fait à l'Assemblée, hein, quand quelque chose que le gouvernement veut mettre en place est refusé, et bah, il faut réexpliquer, parce que avec La République En Marche, quand on n'a pas compris, quand on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'a pas compris. Donc ils ont refait une deuxième délibération, et là seulement pendant la nuit, ils ont voté pour. Mais moi j'aimerais quand même faire comprendre aux gens que ce passeport vaccinal, il vise surtout les jeunes. C'est surtout une mesure qui est contre les jeunes, qui est orientée vers les jeunes, parce que ça va être les concerts, ça va être les festivals. Et on a pas voulu stigmatiser les personnes de plus de 60 ans quand il fallait confiner. On a confiné tout le monde pour pas stigmatiser, alors que c'était surtout cette classe d'âge qui était attaquée par le coronavirus. Mais là, par contre, les mesures qui sont orientées contre les jeunes, on pose même pas la question de savoir s'il faut les stigmatiser ou non, on les passe. Et puis voilà, surtout que c'est une population qui n'est quasiment pas touchée par le virus. Il y a eu des moins de 25 ans, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 morts en un an avec comorbidité.
Oui, mais enfin, je ne vais pas vous faire le raisonnement. Vous le savez bien, le raisonnement. Oui. Vous le connaissez, le raisonnement. Ce n'est pas ces jeunes-là le problème. C'est ensuite qu'ils peuvent se contaminer quand ils rentrent chez eux et qu'ils rencontrent des personnes plus âgées. Vous le savez bien.
Oui, mais ce raisonnement-là, il ne se poserait pas si le gouvernement avait fait un travail correct au niveau des vaccinations. Ça fait 7 mois que le vaccin a été découvert. Jean Castex, il avait promis 15 millions de vaccinés au 15 mai avec les deux doses. On est à 8 millions là. Donc ce passeport-là, il est mis en marche uniquement parce que le gouvernement est incompétent. On a voulu négocier avec Pfizer, avec les grandes entreprises de vaccins, parce qu'on était persuadé qu'on allait avoir un vaccin français. On ne l'a pas eu. On est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir son vaccin. Donc on paye tout ça. Et donc maintenant, du coup, toutes les mesures, passeport sanitaire, etc., c'est seulement à cause de l'incompétence du gouvernement. C'est seulement ça. On est à la traîne partout au niveau des vaccins. Dans les pays aux États-Unis, où ça vaccine en masse, en Israël, au Royaume-Uni, ils ne se posent pas la question de passe sanitaire. Enfin, ils se posent la question seulement à New York.
Ils se la posent partout quand même. Il se la pose souvent dans beaucoup de pays. Le pass sanitaire, c'est une question qui existe, qui est légitime d'ailleurs de poser la question.
Pour les voyages, mais pour aller dans des rencontres aux États-Unis, tous les gouverneurs, sauf celui de New York, ne se posent pas cette question, puisqu'ils ont vacciné quasiment tout le monde. Aux États-Unis, on est en train de vacciner des personnes de 12 ans, là. Donc vous voyez à quel point ça avance vite. Là, en France, on est en retard absolument sur tout, au niveau des vaccins, au niveau des tests. Est-ce qu'on est sûr que déjà, il faut poser la question, est-ce qu'on est sûr que tous les lieux du style festival, etc., auront des tests suffisants pour les personnes?
Là, ce n'est pas des tests, c'est-à-dire qu'on ne fera pas les tests en direct, il faudra apporter son pass. Le pass, je le rappelle, c'est un certificat de vaccination, le résultat de test PCR ou antigénique, ou un certificat de rétablissement du Covid-19 de moins de 2 mois délivré par votre médecin. C'est 3 possibilités. Mais vous n'allez pas faire un test sur place. Vous voyez ce que je veux dire?
Merci de m'avoir corrigé. Mais pour vraiment aussi, il y a quelque chose que j'aimerais mettre en avant, c'est que j'ai peur avec ce gouvernement de la pente glissante, en fait. C'est-à-dire qu'au début, ils nous disent, vous connaissez le mécanisme, au début, ils nous disent c'est seulement pour les festivals, puis après, ils vont dire, on va les mettre pour les restaurants aussi, pour les cinémas, etc.
Oui, mais il ne faut pas désespérer. Par exemple, hier, on rapportait qu'on n'aurait pas le droit d'aller aux toilettes si on était dans un restaurant. Et moi, je m'étais simplement appuyé sur ce qu'avait dit Jean Castex le matin. Il avait dit qu'on n'avait pas le droit d'entrer à l'intérieur de l'établissement. Eh bien, ils ont rectifié. Et ça, c'est une bonne chose. Le gouvernement nous autorisera à aller aux toilettes si on va dîner en terrasse. Merci, monsieur le gouvernement. Merci, moi, je dis merci. Mais il faut désespérer de rien. Bruno Le Maire l'a dit. Alors, c'est vrai que moi, j'avais pris à la lettre ce qu'avait dit Jean Castex. Hier, on n'avait qu'une source, c'était l'interview du Parisien et de Jean Castex. Donc, il avait dit, vous êtes dehors, vous n'avez pas le droit d'entrer à l'intérieur. Donc, a priori, les toilettes des restaurants ne sont pas sur la terrasse. Elles sont plutôt à l'intérieur. Donc là, il y a rectification. Donc c'est bien. Donc il faut saluer cette prouesse gouvernementale de cette adaptation. Bon, merci Théo.
Merci à vous, Pascal.
Merci, vous habitez Strasbourg. Merci. C'est bien d'avoir des étudiants, David et Théo, que nous avions à l'instant. Et on va changer de sujet dans un instant. Est-ce que la politique de la majorité favorise la montée du Rassemblement national? Ça, c'est une question paradoxale, un peu provocatrice. Est-ce que Éric Dupond-Moretti est l'attaché de presse de Marine Le Pen? C'est très paradoxal de dire cela. Eh bien, certains voient dans ces déclarations précisément une manière de faire monter le Front National, qui n'est plus Front National d'ailleurs, mais qui est le Rassemblement National. La pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
J'ai demandé à la lune et le soleil.
Vous pouvez pas comprendre, vous, Greg, parce que vous n'êtes pas de cette génération, mais Indochine, quand Indochine est arrivée, Indochine, c'est né en 81. Vous vous rendez compte? Mm-hmm. Et ça a été la musique très moderne de cette époque-là, très, avec des textes qui, effectivement, étaient assez différents, assez novateurs.
Mais du coup, pardon, là, vous évoquez Indochine pour quelle raison? Par rapport, comme le disait Laurent, à l'ouverture potentielle des clubs libertins ou par rapport à Indochine qui aura un concert? Parce que je peux faire une playlist transverse. Hein. Sinon, c'est je peux aussi mettre une playlist transverse. C'est-à-dire... Qui aborde les deux sujets, à la fois l'ouverture des clubs libertins et Indochine.
Vous n'allez pas me faire une heure et demie sur les clubs libertins?
Non, pourquoi pas, mais là, j'ai demandé à la Lune, mais sinon, il y a aussi ça. Trois nuits par semaine, c'est pas mal aussi. Ça marche. Il y a Troisième Sexe aussi.
Ça, c'était novateur.
Oui. Vous n'avez pas mon idée, c'est pas grave.
Si, j'aime beaucoup votre idée. Laurent Tessier.
J'aime aussi votre idée, Greg Caradoni. Nous vous attendons au standard sur d'autres sujets. Quel conducteur êtes-vous au volant? Quelles sont vos mauvaises habitudes? Avez-vous tendance à partir au quart de tour? Eh ouais, 25% des automobilistes d'Île-de-France sont déjà descendus de leur voiture pour s'expliquer. 24% en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Et à l'inverse, les Normands sont les plus calmes au volant. Ingrid le reconnaît sur la page Facebook de l'émission. J'insulte à beaucoup ceux qui ne respectent pas le code de la route, en particulier quand quelqu'un ne met pas son clignotant. Ça, c'est non. De toute façon, rajoute Thierry, en voiture, c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. C'est toujours l'autre qui est en tort. Ghislaine ne supporte plus son mari quand ils sont en voiture, toujours en train de s'énerver. Au final, on se prend la tête quasiment à chaque fois. Alexandra l'avoue aussi, c'est vrai que les noms d'oiseaux peuvent sortir facilement. Mais j'essaie de faire attention la plupart du temps. Ma fille est présente. Et vous, quel conducteur êtes-vous? 32-10. C'est la question du jour. La politique de la majorité favorise-t-elle la montée du Rassemblement National? Selon deux sondages parus ce matin, la liste RN conduite par Thierry Mariani en Provence-Alpes-Côte d'Azur arriverait en tête du premier tour et pour la première fois du second tour des régionales en cas de triangulaire devant la liste LR de Renaud Muselier. Est-ce que cela vous surprend? 32-10, 3-2-1-0 dès maintenant sur votre téléphone.
Merci Laurent. C'est vrai qu'on attend beaucoup de témoignages sur la manière dont vous conduisez. Ça nous passionne. Est-ce que les hommes, par exemple, conduisent moins bien que les femmes? Est-ce que les hommes ont plus d'accidents que les femmes? Est-ce que les hommes conduisent plus vite que les femmes? C'est une réalité. C'est une réalité. Et les assureurs, d'ailleurs, le savent. Je crois que les assurances ne sont pas au même prix quand tu es un homme que lorsque tu es une femme, parce qu'il y a moins d'accidents avec une femme au volant. Nous allons être avec Arnould, peut-être. Arnould, qui est commercial, qui habite dans le Bas-Rhin. Et notre question, c'est donc, la politique de la majorité favorise-t-elle la montée du Rassemblement National, Arnould? Bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Écoutez, ma réponse est oui. Je pense que la politique de la République En Marche favorise le Front National. Alors, je ne vais pas reprendre les exemples que vous avez cités précédemment, Dupond-Moretti, etc. Je pense depuis l'élection d'Emmanuel Macron que le positionnement politique de la République En Marche a annihilé les oppositions constructives. Et vous parliez cette semaine, vous posiez la question du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste n'existe plus. Les Républicains sont très faibles. Donc aujourd'hui, la seule opposition, véritablement opposition à Emmanuel Macron, ce sont les extrêmes, dont le Rassemblement National. Le simple positionnement politique fait que ça favorise les extrêmes, donc le Rassemblement National. Si je prends mon exemple à moi, je suis un électeur des Républicains. Je ne suis pas en totale opposition à Emmanuel Macron, alors que j'étais en totale opposition envers François Hollande, par exemple. Donc effectivement, je pense que le positionnement favorise le Rassemblement National.
Oui, mais alors, c'est pas, pour être plus précis, c'est des exemples où on a le sentiment que, je disais, Éric Dupond-Moretti, attaché de presse de Marine Le Pen. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour le ministre de la Justice de pointer en permanence Marine Le Pen, de ne parler que d'elle, d'expliquer qu'il veut chasser du Nord Marine Le Pen? Moi, j'ai le sentiment que ça irrite les électeurs. Ça les irrite. À la limite, faudrait, si tu es sur le terrain, tu parles pas de Marine Le Pen, je pense que c'est une meilleure stratégie. Parce qu'en permanence, tu parles de ton adversaire.
Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, j'avais eu le plaisir d'avoir Nicolas Sarkozy sur votre antenne il y a quelques années, et je lui avais posé cette question de dire, ça fait 20 ou 30 ans qu'on combat le Front National de cette manière, en fait, et ça fait 20 ou 30 ans que le Front National augmente. Il serait peut-être temps de combattre le Front National différemment, plutôt sur le programme qu'en prenant des exemples, en les diabolisant, etc.
Bah oui, mais alors manifestement, l'exécutif ne comprend pas ça. Pareil, je citais tout à l'heure l'exemple de Florence Parly, ministre des Armées. Les généraux en retraite font une tribune. Cette tribune est partagée, j'ai envie de dire quoi. Ce qui est écrit dans cette tribune est partagé par une grande majorité de Français. Et que dit Madame Parly ? Ces généraux sont des factieux, on les fustige, on les ostracise, on dit qu'on va les sanctionner, etc. Donc les gens ont le sentiment, en fait, que ce qui est dit dans cette tribune n'est pas partagé par l'exécutif. Donc là encore, on fait la stratégie du Rassemblement national.
Mais je suis bien d'accord, je suis bien d'accord.
On est tous les deux d'accord. Mais vous pouvez peut-être leur écrire un petit mot à l'Élysée et leur dire attention, parce que si vous voulez faire élire Marine Le Pen, peut-être qu'il ne faut pas s'y prendre autrement.
Ben écoutez, c'est mon sentiment également, et je pense que nous, en tout cas les opposants du Front National ou du Rassemblement National...
Mais vous allez voter pour qui ? Vous disiez que vous êtes républicain. Alors vous avez un problème, vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas de programme ?
Je n'ai pas de candidat, je n'ai pas de programme, je suis un orphelin de droite.
Mais alors vous faites quoi ? Vous votez pour qui ?
Écoutez, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pour qui je vais voter.
Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne dites pas, par exemple, dans un second tour, Macron-Le Pen, vous ne dites pas, je ne voterai pas Marine Le Pen. Vous dites, c'est possible que je vote pour elle.
Non. Alors, je vais vous dire, s'il y a Macron-Le Pen, je voterai Macron comme j'ai voté Macron au deuxième tour de la présidentielle la dernière fois. Par contre, il est clair que moi, électeur de droite, si malheureusement il y a un deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, soit je m'abstiendrai, ou soit je voterai Marine Le Pen. Parce que pour moi, l'extrême gauche, c'est insupportable. Ce sont la France insoumise, quand je les écoute, ce sont des gens d'une intolérance incroyable. C'est du racisme de classe, et je trouve ça insupportable. Je n'ai aucun point commun avec le Front National, ni avec la France insoumise, mais avec la France insoumise, c'est insupportable.
Bon,
c'est insupportable,
bah écoutez, c'est a priori quand même un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Tout est toujours possible, mais ce n'est pas la tendance. Merci en tout cas, Arnould.
Merci
beaucoup. Et nous allons marquer une nouvelle pause. Et puis, vous pouvez revenir témoigner sur ce thème. Et évidemment, avec ce qui se passe en PACA, notamment, vous savez que Thierry Mariani, au premier tour des régionales en PACA, c'est un sondage de l'IFOP, sort avec 37%. René Muselier n'est qu'à 22%. Et Sophie Cluzel, La République En Marche Modem, sortirait à 17. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Puis je vais vous donner une information qui est tombée ces dernières secondes, en tout cas ces dernières minutes. Benjamin Griveaux a démissionné de son mandat de député un an avant la fin de la mandature pour créer un cabinet de conseil. Et il vient de tweeter à l'instant, il y a quelques minutes, en tout cas à 12h10 hein, précisément, un nouveau chapitre s'ouvre. Benjamin Griveaux. Et c'est intéressant, on se souvient que Benjamin Griveaux était le candidat malheureux à la mairie de Paris, pour les raisons qu'il n'est pas utile de rappeler, et il quitte la politique. C'est ça la vérité, et c'est assez intéressant aussi, parce que Brune Poirson avait également démissionné, souvenez-vous, il y a quelques jours. Donc c'est des gens qui ont fait un aller-retour dans la vie politique, qui sont jeunes, qui avaient du talent, qui avaient même sans doute un espoir de renouveler la politique, et qui donc feront trois petits tours et puis s'en vont. C'est le cas donc de Benjamin Griveaux. Nous sommes avec Philippe, qui est commercial, qui habite Lille. C'est la question que nous posons. La politique de la majorité favorise-t-elle la montée du Rassemblement national ? Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal.
Bonjour
Pascal.
Ça va ?
Bah écoutez, moi je pense qu'en ces temps troublés, le Rassemblement national peut être une solution d'autorité, de rigidité, de sécurité, tout ce que n'incarne pas le gouvernement Macron. On peut être amené à voter pour le Rassemblement national par défaut. Moi, je connais plein de gens qui, il y a quelque temps, n'auraient jamais voté pour Marine Le Pen ou pour un autre candidat du Rassemblement national. Et là, se pose vraiment la question. Gouvernement a laissé flamber la situation de manière désastreuse depuis des semaines, durant lesquelles on a pu constater que l'autorité de l'État était vraiment malmenée sans action concrète de leur part. Il y a eu quelques tweets, des effets d'annonce de Darmanin, qui est une vitrine, et les provocations de Dupond-Moretti, qui lui passe plus de temps dans sa lutte personnelle contre Marine Le Pen que que proposer des solutions.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'une majeure partie des gens perçoivent ça. Et que il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a même presque une absence de sincérité parfois, et chacun devine que voilà, il fait de la politique pure, mais que ça marche pas précisément. Et je m'interroge pourquoi un homme avec autant d'expérience que de lui peut faire ce type d'erreur. Je ne sais pas si vous avez la réponse, Philippe.
Bah, moi, je pense que il a tout faux, parce qu'il incarne vraiment ce laxisme de la justice que beaucoup ressentent. Hein. Les derniers événements ont vraiment montré qu'il y avait un gros problème à ce niveau-là, et qu'on peut faire autant de lois qu'on veut. Si les juges ne changent pas leur logiciel, il y aura toujours le même problème. Et c'est lui qui l'incarne, ce problème, monsieur Dupond-Moretti. Mais je pense que malheureusement, il oublie la politique pour être dans le combat personnel. On le voit, il a la bave aux lèvres, quoi. Il a la haine.
Ah, c'est jamais une bonne chose d'être dans cet état-là, parce que pour la raison que vous venez de dire, c'est que le public perçoit ça. Et dans ces cas-là, surtout, ça sert la victime. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si vous attaquez quelqu'un avec la bave aux lèvres, comme vous dites, et je ne sais pas si ça correspond tout à fait à Éric Dupond-Moretti, mais c'est vous qui le dites. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Parce qu'effectivement, la victime, de ce fait, en plus une victime qui est écoutée et qui est entendue par beaucoup de Français. Donc ça agace, ça irrite.
Bah oui, c'est vraiment dommage, parce que ça donne une triste image de la politique. On est plus dans le spectacle. On regarde les chaînes d'infos, il y a rien d'intéressant. On dit, tiens, qu'est-ce que va dire monsieur Dupond-Moretti? Et je pense que c'est pas bon.
Vous votez pour qui, Philippe?
Moi, je suis plutôt droite. Je ne voterai pas Rassemblement National.
Mais alors, vous allez voter pour qui? Parce que même question que pour Arnould, si vous êtes républicain, vous n'avez pas de candidat.
Ouais.
Vous êtes orphelin de Nicolas Sarkozy, généralement, quand j'entends les auditeurs, et vous n'avez pas de programme.
Oui, je ne sais pas, je me pose la question. Je vous avouerai, là, je suis vraiment...
Vous avez un an pour y répondre, mais quel est aujourd'hui le candidat, selon vous, des Républicains, puisque c'est ça que je devine, vous représenterait le mieux?
Moi, je dirais Xavier Bertrand, dans le sens où, si vous voulez, pour être président, il faut fédérer, il faut incarner la fonction, et qui, chez les Républicains, peut le faire? On parle de David Lisnard, mais bon... Je pense qu'il n'a pas encore le profil. Hein.
Maire de Cannes, David Lisnard, voilà. Qui a de la qualité, hein, bien sûr, mais qui manque peut-être de notoriété, David Lisnard, et même Bruno Retailleau. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tout le monde connaisse le nom de Bruno Retailleau.
Je pense que ces figures-là, pour être à la tête des Républicains, ça pourrait marcher. Mais pour être président de la République et pour fédérer droite et gauche, parce que pour être président de la République, c'est ce qu'il faut faire. Ça me paraît vraiment perdu d'avance. Donc, moi, je vois Xavier Bertrand. On va voir ce qu'il donne au régional, parce que s'il perd, il a dit qu'il arrêtait la politique. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et je pense aussi...
Oui, pardonnez-moi, Philippe.
Je pense aussi que ce qu'ils ont mal fait, ce que La République En Marche a mal fait, c'est s'attaquer à la tribune... des militaires.
Ça, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça, c'est un marqueur. Ça, c'est une faute, c'est un péché originel. Ça, je partage à 100% votre avis, puisque je l'ai dit à ce micro. Je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est une erreur. C'est une erreur d'avoir attaqué les militaires comme ils l'ont attaqué, et d'avoir attaqué la tribune.
Parce que ces militaires qui en aura le bol, comme tous les Français, et qui voulaient simplement donner leur point de vue, Sans faire un putsch, hein. Ils n'ont jamais dit que la France allait devenir une junte militaire. Là, je pense que le gouvernement a montré beaucoup de faiblesse face à la délinquance, face au terrorisme, mais beaucoup de fermeté face à des militaires qui voulaient ne donner que leur point de vue. Et là, c'est une grave erreur. J'aurais pas dû.
Ben merci beaucoup, Philippe, pour la qualité de votre analyse. Merci beaucoup. Et puis la franchise, aussi la sincérité. Donc c'était intéressant de discuter avec vous. Bonne journée du côté de Lille, 13h48. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il y a un sondage qui est sorti et quand on parle d'automobile, c'est toujours passionnant. C'est la Fondation Vinci qui a aujourd'hui publié son baromètre de la conduite responsable. Si les injures arrivent en tête des incivilités des conducteurs français, 65%. Les habitants de PACA semblent les plus enclins à proférer des noms d'oiseaux, 70% suivis par les automobilistes d'Auvergne-Rhône-Alpes, des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Alors, quand on parle d'automobile, moi je pense à Pierre Chasseret immédiatement, et quand je pense à Pierre Chasseret, eh bien je l'appelle, nous l'appelons avec Laurent Tessier, parce que nos échanges, voilà, il y a un peu de vie à l'antenne. Bonjour Pierre Chasseret.
Salut Pascal, bonsoir à tous. Bon. Bonjour à tous.
D'abord, qu'est-ce qu'il faut penser de cette étude et de ce baromètre Fondation Vinci Autoroute? Est-ce que globalement, par exemple, les Français conduisent mieux que les Italiens, que les Anglais, que les Grecs, que les Espagnols, que sais-je?
Bon, je n'ai pas l'impression qu'on conduit plus mal. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que moi, ce type de sondage, pour moi, ça s'appelle enfoncer des portes ouvertes au pied de biche. Parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se passe. Donc, on nous dit quoi? On nous dit qu'en région Rhône-Alpes, en région PACA et en région parisienne, c'est là où, grosso modo, on est le plus enclin à être un petit peu nerveux sur les routes.
Oui, mais il n'y a pas que ça.
Dites-moi, Pascal, ça serait quand même pas l'endroit où il y a le plus de bouchons? Bah si, tout simplement. Donc en fait, on s'énerve en voiture quand on est dans les bouchons. Une fois qu'on a dit ça, on a un peu fait le tour, sauf que il faut peut-être penser à regarder ce que ça donne au classement international. On s'aperçoit que Paris, Marseille font partie des villes les plus embouteillées d'Europe. Donc du côté des autres régions françaises, on est plus calme au volant. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde, c'est plus fluide.
C'est oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Par exemple, le téléphone, par exemple, la moitié des automobilistes français passent des appels en Bluetooth alors qu'ils conduisent. C'est une pratique qui est autorisée, mais qui constitue quand même une distraction, forcément.
Vous savez, avoir vos enfants à l'arrière dans la voiture qui se chamaille, c'est une distraction aussi.
Oui.
Ce qu'il faut aller, c'est... Vous savez, Pascal, tout interdire, c'est la garantie qu'ensuite on transgresse les règles. Il faut autoriser les pratiques les moins dangereuses. Je pense que si on dit qu'on interdit toute communication téléphonique dans l'enceinte d'une voiture...
J'entends bien, mais par exemple, 27% avouent envoyer des SMS au volant. Une personne sur quatre.
Ça, par contre, c'est extrêmement dangereux.
Vous rendez compte?
Moi je vais vous dire, quand remonte la dernière campagne de prévention, de sensibilisation, de la sécurité routière?
Et à votre avis, savez qu'il y a des gens qui regardent la télé quand ils sont dans leur voiture? 5% regardent une vidéo. Vous dites, Greg Carradini, c'est vrai. 5% des gens sont en train de regarder la télé.
Et puis alors, il y a des signaux qui ne trompent pas. Nos amis routiers, pour certains, alors attention les routiers, je vous adore, il est évident que quelquefois, on a des professionnels de la route qui se retrouvent un peu en situation d'ennui et qui finissent par avoir des comportements un peu irresponsables. Pendant un temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de la saga Candy Crush ou de la saga de Pokémon Go, pendant un temps, vous aviez des gens qui, en voiture, étaient en train de jouer à Pokémon Go. C'est gravissime. Donc là,
vous me parlez chinois, ça, Pokémon Go, j'ai manqué des trucs là. Candy Crush, ça c'est pas mon truc ça. Si vous me parlez des mystères de l'Ouest, je veux bien, mais de Candy Crush, c'est pas une série que j'ai vue. L'alcool au volant, est-ce que vous savez où est-ce qu'on boit le plus en France?
Alors où est-ce qu'on boit le plus en France? J'espère que vous n'allez pas me répondre la Bretagne.
C'est la Bretagne. C'est en Bretagne que les automobilistes concèdent le plus conduire en sachant qu'ils sont, je ris mais c'est pas drôle du tout, qu'ils sont au-dessus de la limite autorisée, 18%. En PACA, 15% des sondés indiquent avoir déjà eu un accident ou presque à cause d'une consommation excessive d'alcool et 12% en Nouvelle-Aquitaine et Bretagne. Donc vous voyez, c'est quand même...
Ça, c'est du déclaratif. Et ensuite, les faits, c'est pire. L'alcool au volant, c'est un tiers des accidents de la route. C'est dramatique. Et quand on parle d'alcool au volant, attention, on parle de quoi? On ne parle pas de celui qui a bu un verre ou deux. On parle de celui qui est positif au contrôle alcoolémique.
Oui, évidemment.
Donc, ça
mais moi, je suis pour 0%. Je suis pour zéro. Quand tu conduis... Pourquoi?
On ne peut pas parce que...
0,1 si vous voulez, j'en sais rien. Mais quand tu conduis, tu ne bois pas. Voilà, c'est ça.
Je suis désolé de vous le dire comme ça. Non, je suis plutôt d'accord avec cette vision, mais il faut être en capacité de donner aux gens la possibilité de se tester. Moi, je suis favorable à quelque chose.
Je peux vous dire qu'il y a des gens que je connais, ils n'ont pas besoin de se tester en fin de repas.
On est d'accord.
Quand je les vois sortir, ça, il n'y a pas besoin d'avoir un test.
Pascal, imaginez, vous êtes dans un petit restaurant, vous fêtez vos 10 ans de mariage avec votre femme, vous avez bu quelques verres. C'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est pas le fait de consommer au restaurant. Ce qui est interdit, c'est le fait d'être positif à l'alcoolémie au volant. Oui. Donc moi, je suis favorable à un truc très simple, ça existe. Il faut savoir que l'entreprise qui fait ça, elle a reçu le prix de la sécurité routière. L'État français n'en a pas acheté un seul. C'est magnifique.
Oui, bah,
en fait, c'est un éthylotest connecté, une tablette connectée que vous pouvez mettre dans des établissements de nuit, de ce type d'établissement, qui permet aux gens de souffler au moment où ils reprennent la route. Si vous êtes positif à l'alcoolémie, parce que vous êtes, je ne sais pas moi, 0,1
vous savez,
si va,
mais vous savez, non, c'est-à-dire qu'au-delà de deux verres de vin, voilà, c'est
non,
terminé.
C'est non, c'est plus compliqué, Pascal. C'est plus compliqué parce qu'en fait, le taux d'alcoolémie pour un homme et pour une femme, il monte pas pareil, il descend pas pareil. C'est-à-dire que nous, par exemple, par dose d'alcool, en tant qu'homme, on va prendre 0,15 par dose, par verre, si vous voulez. Alors, mais on perd 0,1 par heure.
Le cas, quand même, le cas que vous avez dit est hautement improbable. Pourquoi, Greg Caradoni?
Bah, parce qu'il faut que les restaurants soient ouverts et que votre femme reste 10 ans avec vous.
C'est sympa, ça,
tiens. C'est vrai que c'est hautement improbable. Il n'a pas tort, Greg Caradoni. Bon, bah, non, écoutez, mais... Pierre Chasseret. Bon, donc vous trouvez. Moi, je trouve que c'est intéressant d'abord de savoir. Par exemple, est-ce que vous êtes déjà, vous, descendu de votre voiture pour vous expliquer avec quelqu'un?
Non, jamais. Mais moi, j'ai pas.
Bon, c'est arrivé à tout le monde. Moi, je conduis depuis. J'ai eu mon permis en 82. Mon permis en 82, ça fera 40 ans. Oui, je suis parfois descendu de ma voiture. Oui, bien sûr.
J'ai eu affaire. Non, il m'est arrivé d'avoir affaire à des conducteurs avec. Ah bah,
il y a des. Ouais, il y a des gens qui sont descendus. Oui. Alors là, j'ai fermé ma porte à clé parce que j'ai tout de suite et j'ai accéléré en partant vite parce que j'ai vu que j'avais rien fait, donc je tombais sur des drôles de loulous parfois en voiture.
Mais vous savez, Pascal, je suis taillé comme une allumette, hein, donc en principe, c'est pas moi qui fais le mariole.
Non, moi non plus.
Désolé, monsieur. Faire une bêtise au volant, ça arrive. Je pense qu'il faut le concéder, très bon. De plaisanterie.
Eh bien, merci.
Bêtise, ça arrive.
Ça arrive, oui, mais...
Il faut être tolérant.
Soyons tolérants. Non, mais ça peut arriver, bien sûr, mais qui n'en a pas fait? Merci, Pierre Chasseret. Vous avez vu, aujourd'hui, on était d'accord quasiment sur tout. Et vous êtes délégué général de 40 millions de mobilistes. D'habitude, vous voulez que tout le monde roule à 190 sur autoroute. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec vous. Mais là, vous êtes bien conduit. Donc, je vous remercie. Vous avez été sage. Merci, Pierre Chasseret. Michel.
Bonne route à tous.
Michel, est-ce que vous êtes un bon conducteur?
Eh ben, je pense que je suis un bon conducteur. Maintenant, qui sait?
D'abord, vous avez vos 12 points.
J'ai mes 12 points. Et en tous les cas, l'enchaînement, parce qu'on vient de parler de la région de France où on boit le plus. Et figurez-vous que je vous appelle du Morbihan, quand même, qui est classé en Bretagne. Et j'ai la chance de travailler dans le Finistère, qui est aussi en Bretagne. Alors, je ne pense pas qu'on boit plus que les autres. On a peut-être été plus victime de contrôle, etc. Donc, je me suis aujourd'hui permis de vous appeler.
Les Bretons sont plus contrôlés que les autres.
Bah, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que c'est toujours
peut-être
la Bretagne qui sort premier?
Ah, j'en sais rien, mais peut-être parce que les Bretons, moi je suis de là, donc je n'ai pas, pas le sentiment qu'on boit plus qu'ailleurs. Mais...
On a déjà eu les bonnets rouges, on fait enlever tous les trucs là, sur les voies fraîches, donc on ne va pas porter la misère du monde. On est classé gaulois réfractaire, enfin bref, etc. Moi aujourd'hui, l'appel concernant l'incivilité au volant, je disais à votre charmante collaboratrice tout à l'heure, il y a une chose qui me rend dingue. C'est, je me demande si sur les voitures d'aujourd'hui, il existe encore des clignotants. Vous savez, le truc qui marche un coup et un coup qui ne marche pas, là. J'ai l'impression qu'il ne marche jamais. On sort d'un rond-point, enfin bref, je pense qu'il serait bon de rappeler aux gens qui nous écoutent, et je pense qu'ils sont nombreux aujourd'hui, que le clignotant, c'est le seul moyen que l'on a de communiquer entre usagers de la route, qu'on soit en deux roues, qu'on soit en quatre roues. Donc, s'ils pouvaient de temps en temps penser, il faut que je mette mon clignotant pour indiquer où je vais, ce serait pas mal. Les gens qui roulent avec le téléphone au volant, alors là, j'ai des poils qui se dressent.
17%. On va continuer juste après la pause et le journal, mais j'avais juste quelques notes de musique. Vous connaissez cette chanson des Charlots?
On ne fait pas de sucre de canne dans le Morbihan. On ne cultive pas la banane dans le Morbihan.
Vous connaissez cette chanson des Charlots?
Oui, bien sûr, je la connais.
Oui, mais quand vient les samedis soirs, mon vieux, dans les coins, dans les bars, on peut dire que tout le monde est noir. Dans le Morbihan.
La pause, le journal. Enfin, le journal Le Flash. Et puis, revenez nous voir. Évidemment, ne restez sur la route, surtout, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui partent. Vous savez que c'est le week-end de l'ascension. Vous savez ce que c'est que l'ascension, évidemment, Greg Caranoni.
On le dira. Absolument, mais on est très en retard.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT.
Il est 14h01. Le Flash avec Yann Bouchery.
Bonjour à tous. Les obsèques d'Éric Masson ce matin dans son village de Bédarrides, dans le Vaucluse. Une foule d'amis, de voisins, de collègues pour une cérémonie dans l'intimité. Pendant ce temps, le procureur de la République d'Avignon a donné des précisions sur l'enquête en cours. Le meurtrier présumé de ce policier a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué hier soir à la prison des Baumettes à Marseille. Le jeune homme de 19 ans conteste toujours les faits, mais le deuxième individu présent à ses côtés l'a désigné comme étant bien celui qui avait tiré. Cet homme de 20 ans a été mis en examen, lui, pour non-assistance à personne en danger. La situation sanitaire s'améliore avec une décrue importante de Covid à l'hôpital, vient d'indiquer Gabriel Attal. Selon le porte-parole du gouvernement, le taux d'incidence est inférieur à 200 sur la majorité du territoire. Par ailleurs, un assouplissement se profile pour la réouverture des terrasses. En visite ce matin à Fort-Lamaurie dans les Yvelines, Alain Griset a promis que la jauge de 50% n'allait pas s'appliquer sur les petites surfaces. Il préconise juste une séparation physique entre les tables avec des plantes ou des plexiglas. Il y aura bien un procès après le crash du Rio Paris en 2009. Ce matin, la Cour d'appel de Paris a renvoyé Air France et Airbus en correctionnel pour homicide involontaire. Cette décision de la Chambre d'instruction invalide le non-lieu prononcé en 2019 au grand soulagement des familles de victimes. Le 1er juin 2009, le vol AF447 s'était abîmé au milieu de l'Atlantique. 228 personnes avaient trouvé la mort, 216 passagers et 12 membres d'équipage. La compagnie aérienne a assuré ce matin qu'elle n'avait pas commis de faute pénale. Ses avocats, tout comme ceux d'Airbus, ont déjà annoncé un pourvoi en cassation. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra cet après-midi une nouvelle réunion à huis clos en urgence, la deuxième en trois jours sur la crise au Proche-Orient. La tension n'a jamais été aussi grande depuis 20 ans entre Israël et le Hamas. L'État hébreu a mené ce matin de nouvelles frappes aériennes sur la bande de Gaza en réponse à une pluie de roquettes. On déplore 55 morts déjà depuis le début de ces violences. Les courses, elles avaient lieu à Compiègne. Le résultat du Quintet Plus, l'arrivée provisoire, le 6, le 16, le 5, le 4 et le 12. Un mot de météo, des précipitations parfois orageuses cet après-midi à l'ouest, temps instable sur une grande bande centrale. La Provence et la Corse seront à l'abri sous un ciel lumineux. Les températures maximales de 14 au nord à 21 vers la Méditerranée. RTL 14h03, Pascal Pro, le retour des auditeurs.
Merci Yann, vous êtes un bon conducteur.
Évidemment.
C'est vrai, vous avez combien de points?
Ah ben 12.
Non, c'est vrai.
Évidemment.
Vous êtes formidable, moi j'en ai 4.
Ben oui, ça m'étonne pas par contre.
Mais non, je les perds un par un. J'ai dit que j'allais faire un stage bientôt avant l'été pour en récupérer 4. Et je ne les ai pas. Vraiment, je dis toujours.
C'est les petits excès de vitesse.
J'ai perdu point par point. 1, 1, 1, 1.
Ben oui, mais ça fait que 4 quand même. Hein,
ben c'est pas
à
beaucoup.
À la fin.
Moi non. J'ai peur. Donc là, je vais en récupérer 4 d'un coup. Mais il faut que je fasse un stage et oui. Je ne serai pas là un vendredi. Forcément, je vais le faire un vendredi, un samedi. Et 14h04.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos.
Vous pourriez être original quand même. Hein. Chaque fois qu'on parle de voiture, vous mettez cette chanson.
Le Morbihan, ça ne vous plaisait pas?
Bah, c'était original.
Ah, bah, je le mets alors, je le remets, bien sûr. Ouais.
Sucre de canne, dans le Morbihan, on ne cultive pas la banane.
En fait, on est avec Michel, qui a 61 ans, qui est commerçant, et on parle de la Fondation Vinci Autoroute, qui a publié son baromètre de la conduite responsable. C'est relayé par Le Parisien. Et le premier constat, c'est que le comportement au volant n'est pas forcément le même selon les régions. Michel, on termine avec vous, puisque vous êtes un bon... comment dire, un bon conducteur.
Un bon conducteur, parce que si vous disiez... Pas 4, 8.
Ouais, et alors vous disiez, c'est le clignotant, vous, que vous... Pour vous, c'est le truc le plus important que vous regardez sur la route.
C'est un truc important parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est le seul moyen que l'on a de communiquer avec les autres usagers. Donc, ça me semble important. Oui. Alors, j'ai 61 ans, j'ai mon permis depuis 1978. Donc, comme tous les jeunes, j'ai passé à 18 ans. Et puis, à 56 ans, une petite envie folle de passer de la 125 au permis moto. Donc, j'ai passé mon permis moto. Donc, je suis retourné à l'auto-école. pour repasser le code.
Ah oui, ah oui, c'est
et
dur
repasser,
ça.
Etc. Donc là, on se retrouve avec des petits jeunes de 17-18 ans et on prend conscience que quelque part, on a pris des habitudes avec les années, sur la route, etc. Mais alors, quand je suis au volant avec mes enfants, ils disent « Allez, papy, avance !» Mais j'ai dit « Arrêtez, papy, il a ses 12 points !» Moi, j'ai la chance d'avoir un régulateur, donc je mets le régulateur et j'essaye au maximum de respecter la limitation de vitesse en voiture. Parce que je reconnais que quand je suis en deux roues, 80 euros, ça me gave, franchement.
Ben, je suis d'accord.
Bon, on essaye de faire attention. Il y a une ligne droite, il n'y a personne, on y va. Les voitures, parce qu'il y a encore un petit peu de courtoisie, lorsqu'ils voient une moto arriver, ils se garent un petit peu sur la droite pour nous laisser passer. Je trouve ça super cool. Mais c'est pour ça que le clignotant qui permet de communiquer entre automobilistes, ça me paraît hyper important. Et j'espère que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont prendre conscience de dire « Tiens, est-ce que si je ne pouvais pas faire un petit peu de garde pour mon clignotant, peut-être que ça ferait avancer les choses ?»
Michel, on se souvient toujours de sa première fiancée et on se souvient toujours de sa première voiture.
Ma première voiture, c'était une deux chevaux m'avait donné mon frère.
Alors on a la même histoire.
Alors, demandez-vous si vous n'avez pas eu la même fiancée.
On ne se refile pas les fiancés dans les familles, ça ne se fait pas. Mais de la même manière, comme moi j'étais le deuxième, eh bien, j'ai eu la deux chevaux de mon frère. Voilà, on avait les pantalons de son frère parfois et les chemises de son frère et on avait la voiture de son frère. Et exactement, moi j'ai une deux chevaux comme vous. Et aujourd'hui, vous roulez avec quoi, Michel?
Alors aujourd'hui, je roule en Volvo. XC60, j'ai cette chance-là d'avoir...
Donc ça, c'est une belle voiture, ça.
Ça, c'est une très belle voiture.
Je ne connais pas grand-chose, moi, en voiture, mais c'est une belle voiture.
Alors, pour le téléphone au volant chez Volvo, comme ils misent à fond sur la sécurité, on a droit le Bluetooth. Donc, une fois qu'on est connecté, on a les deux mains sur le volant à 10h10.
Ouais, mais ça, tout le monde a ça dans les voitures aujourd'hui, le Bluetooth.
Oui, je pense pas, parce que quand je vois le nombre de personnes que je croise avec le volant à la main, je pense même...
Il faut mieux avoir le volant à la main que dans les pieds.
Oui,
non, le volant à la main.
J'entends bien.
Oui, le téléphone, vous vouliez dire à la main.
Oui, le téléphone.
Parce que ceux qui n'ont pas le volant à la main, moi, je m'en méfie.
Oui, vous savez, on ne sait pas comment ils tiennent le volant, mais
bon. Je vous en prie. Michel, merci. Merci.
Écoutez, j'ai été très heureux de participer à votre émission. Je vous souhaite un très, très bon week-end pour ceux qui
ont
fait
4 jours. Quelle ville
du Morbihan? Alors, j'habite à Port-Louis, mais je travaille sur Quimperlé.
Formidable.
Dans le 29. Donc, j'ai une demi-heure de route tous les jours, donc c'est pas mal. Et quand je peux le faire, quand il fait beau, parce qu'il fait souvent beau en Bretagne quand même,
je peux
le faire en deux roues, c'est un vrai bonheur. Commencer sa journée par une demi-heure de moto, je ne vous dis pas, je ne vous dis que ça.
Je vous envie de vivre dans le Morbihan, mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé d'être à Paris.
On a de bons restaurants, on a de bons gîtes par ici. Venez passer un petit séjour chez nous, une petite demi-heure.
Mais je vais très souvent dans le Morbihan.
Écoutez, je vous souhaite en tous les cas...
La Roche-Bernard, c'est dans le Morbihan déjà.
C'est juste à côté, c'est à une demi-heure de Port-Louis.
Ouais. Ça doit être la frontière.
Très beau, la Roche-Bernard.
Mais magnifique.
On est limite avec la Loire Atlantique. Là.
Exactement, c'est vraiment la frontière. Voilà.
Merci à tous et puis je vous souhaite un très très bon week-end.
C'est gentil, merci Michel.
Et surtout les auditeurs, n'oubliez pas le clignotant, c'est hyper important pour les clients usagers de la route.
J'ai bien compris Michel. La pause et nous revenons dans une seconde et il nous reste une vingtaine de minutes. Vous êtes peut-être sur la route d'ailleurs pour ce week-end de l'Ascension qui commence dans quelques heures. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Traduction.
Vous conduisez ma voiture. Je peux conduire ma voiture.
Comment vous conduisez? C'est notre question jusqu'à 14h30. Nous sommes avec Monique qui habite à Saint-Malo, pas loin du Morbihan. Bonjour Monique.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs.
Bonjour, vous conduisez comment?
Alors, je vais vous dire que je conduis depuis 51 ans. J'ai eu mon permis à 18 ans, donc vous calculez. Et donc, je conduis très, très souvent. Peut-être un peu trop vite, effectivement, mais très prudemment.
Vous avez combien de points?
J'ai encore mes 12 points parce que je n'ai eu qu'un point d'enlevé pour un radar parce que il était à 70, je le savais, mais j'étais à 78. Donc, on m'a enlevé un point que j'ai rattrapé un an après.
Donc, vous avez vos 12 points.
J'ai mes 12 points.
Paraît-il que 90% des gens ont leurs 12 points, d'ailleurs. Et dans les stages, il n'y a que des garçons, comme par hasard.
Et on dit que les femmes conduisent mal?
Elles conduisent mieux. C'est ça, la vérité. Elles conduisent mieux. Alors, bon, pas d'accident, 51 ans?
Alors si, j'en ai eu un seul, où j'étais responsable, Une priorité que voilà que j'ai voilà
que vous avez manqué. Donc, moi j'ai l'impression que les gens roulent mieux qu'avant. Vous qui avez un peu de recul, j'ai l'impression j'ai l'impression que les gens sont plus respectueux parce que pour une la peur du gendarme hein, tout simplement.
Oui, il y a des limaces d'ailleurs que j'ai horreur de suivre. Alors là je m'énerve, je suis pas du tout patiente. Je les traite de tous les noms.
Non mais on roule moins vite qu'avant quand même, Monique.
Bon, non, ça dépend des quatre voies. Hein. Nous, on a la quatre voies pour aller jusqu'à Rennes.
Ben oui, mais les gens, dans le temps, les grands excès de vitesse n'existent plus parce que les gens, je le répète, ont la peur du gendarme. Ce qui n'existait pas dans les années 70.
Oui, peut-être. Je le conçois, oui.
Bon, et quand vous êtes en couple, peut-être, Monique ?
Oui, avec mon mari qui est souvent à côté, mais il conduit souvent.
Alors ça, c'est intéressant. Qui conduit ? Vous allez chez des amis, qui conduit ?
Hier, par exemple, on a fait 250 km dans la journée. Figurez-vous que moi, c'est moi qui ai fait l'aller-retour. Et donc, j'ai fait. Je mets mon GPS pour avoir le petit clignotant gring-gring quand je dépasse.
C'est vous la patronne en fait ?
Non !
Non, mais vous la patronne, mais il faut toujours.
Mais je vais vous dire pourquoi, parce que mon mari a un petit problème au genou, donc il me dit maintenant.
Il n'aime pas conduire. Il préfère que ce soit vous.
Maintenant, il commence à me dire « tu vas un peu trop vite, attention ».
Ah, en plus, il vous engueule.
Non, mais là, c'est pas depuis longtemps et ça m'énerve un peu quand même.
Comment il s'appelle votre mari ?
Jean-Claude, il est dans la salle.
Il est dans la... alors Jean-Claude, attendez. Mais parce que les hommes, c'est vrai que c'est souvent « ah, tu conduis vite, c'est agaçant, vous savez, quand vous conduisez... conduisez, que vous êtes avec votre femme ou votre mari, et qui... regarde, tu devrais aller là, et puis... c'est insupportable.
Il est très gentil, et puis... je vous dis, c'est pas depuis longtemps, et c'est peut-être parce
qu'il
y a... Puis
ça fait un moment, j'imagine, que vous êtes ensemble.
Ça va faire 48 ans.
Vous avez changé plus souvent de voiture que d'homme.
Absolument.
Vous vous souvenez de votre première voiture, Monique ?
Ah, tout à fait, une 4L.
4L, il y a 40 ans, il y avait déjà des 4L il y a 40 ans.
Oui, 50 ans,
il y avait des 4L.
Ma première voiture, j'ai eu une 4L, une boîte à savon, là.
La boîte, oui, on a tous eu un peu les mêmes voitures. Et aujourd'hui, vous roulez dans quelle voiture ?
Alors, on a eu plusieurs voitures. Hein. On a eu une R20, on a eu une Xantia.
R20, c'était dans les années 80, la R20.
Oui, par là.
C'était des belles voitures, grosses voitures.
Simca 1100 break.
Simca, bien sûr, Simca. Alors ça existe toujours, les Simca ? Je crois que ça n'existe plus, les Simca. Il y avait la Simca 1000.
Ah non, j'ai pas eu.
Simca 1000.
J'ai pas eu ça parce que ça tenait pas la route.
Cyprien Sini, lui, il a une Fuego, mais de collection.
Ah oui, je me rappelle bien. Et
il en a une. Il en a une chez lui. Bon, et aujourd'hui, vous roulez dans quoi, Monique ?
Alors, j'ai eu une Simca 1307 après.
Et aujourd'hui ?
On a eu la Xantia, on a eu une Polo pendant 12 ans.
D'accord.
Et là, on a une petite voiture qui a toute une grande.
C'est quoi, c'est
une
la
panda.
C'est
une
la
panda.
Une panda. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez souvent changé de, parce que ça aussi, c'est dans ce sondage. Généralement, les gens, parfois, ils sont Renault, ils sont Peugeot, ils sont BM, ils sont Mercedes.
Non.
Mais bon, vous êtes éclectique, vous avez beaucoup changé.
Je vais vous dire pourquoi, et je l'en remercie au travers de la radio. Avec mon beau-frère Hervé, on a eu la chance d'avoir des voitures par lui, très très bien.
Ah, parce que Hervé, il vend des voitures.
Hervé, il a vendu des voitures.
Bon, ok. Merci, Monique, c'est intéressant.
Alors, attendez, je voulais vous dire, comme le monsieur d'à côté d'avant, les clignotants inexistants, alors là, ça me prend la tête, mais alors, que vous ne pouvez pas savoir. Par contre, c'est vrai que concernant la Bretagne et concernant la boisson, je ne bois jamais ou un verre vraiment. Avant de prendre le volant, je ne conduis jamais en état.
En état d'ébriété.
Et je n'ai jamais soufflé dans le ballon, dites-donc.
Oui, c'est vrai que on souffle assez peu. Je ne sais pas, Greg, vous avez déjà soufflé dans un ballon ?
Jamais.
Moi, c'est extraordinaire. Je pense que j'ai soufflé deux fois, moi, dans le ballon.
Et
deux fois,
j'ai
été contrôlé. Non, ben non, c'était à chaque fois. Non. Là, je perds mes points, mais je suis trop. Non. Là, je prends pas le volant si j'ai.
Ah, bien,
non,
bien.
Ça jamais.
Bravo,
ben, non, mais c'est trop grave. Là, pour le coup, c'est trop grave. Je veux dire, nous, on a la chance d'être à Paris, pour le coup. C'est peut-être plus facile parce qu'on peut prendre les moyens de transport. Vous sortez d'un dîner, vous pouvez prendre un taxi, vous pouvez rentrer en métro. Ouais. Bon, c'est pas la même chose que d'être en pleine campagne. À Paris, c'est a priori, ça peut être plus facile.
Ouais.
Bon, merci, Monique.
Entre autres, je voulais vous dire aussi que Jean-Claude, donc mon mari, je préfère prendre le volant pour le laisser boire.
Ah oui, parce que vous faites boire Jean-Claude désormais.
Il boit tout seul. Non, pas tout seul, justement avec d'autres, mais des fois, ça dépassera peut-être. Alors, moi, j'ai fait
mais
très attention.
Mais c'est quoi, alors par exemple, c'est quoi beaucoup boire? C'est au-delà de trois verres, boire pour vous?
Par exemple, on a fait la fête samedi. Oui. Oui, il a bu plus que de raison, peut-être.
Mais c'est quoi?
Six verres,
d'accord. Ah oui, c'est beaucoup.
Bah, la fête, hein.
Bien sûr,
son anniversaire.
Ah bah, six verres, c'est une bouteille.
Ah ben oui, mais il y avait du mélange, il y avait l'apéro, il y avait le vin blanc avec les huîtres, il y avait le champagne avec le gâteau, donc voilà.
Monique, je vais vous dire.
On est des fêtards.
Monique, j'adore notre émission des auditeurs. Il n'y a que sur cette antenne qu'on peut entendre parler les gens de leur vie. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Faudrait d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ça me fait plaisir d'entendre parler des gens qui disent mon mari a bu 6 verres de vin. Voilà.
Puisque je conduisais, moi je l'ai laissé boire. Hein.
bien sûr, mais c'est. Voilà. Et puis vous en parlez bien, Monique.
Eh bien, écoutez, merci, et puis bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront.
Ah, parce qu'on va vous reconnaître ?
Oh, bah oui, parce que ma voix, de toute façon, je sais, mais je m'en fiche, j'assume.
Eh bien, merci.
J'assume
Monique.
Que je vais vite au volant.
Monique.
Mais avec prudence.
Voilà, merci Monique. Je vous embrasse vraiment, je vous embrasse fort.
Oui, ben moi aussi, au revoir.
Merci Monique. Il reste Béatrice et Michel avec nous. Peut-être Béatrice dans le Calvados. Bonjour Béatrice, parce que ce qui est intéressant dans le profil de Béatrice, c'est qu'elle a vécu à Paris et maintenant elle est à Caen. Donc est-ce qu'on roule différemment à Caen de la manière dont on roule à Paris ? Béatrice, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec
nous. En effet. Alors moi je suis originaire de la Mayenne, mais de 18 à 36 ans, 38 ans j'ai vécu à Paris, et là depuis 20 ans je vis à Caen. Et alors je peux vous dire que c'est le jour et la nuit au niveau de la conduite. Hein. Sur mes 19 ans à Paris, j'ai eu une voiture donc sur les, on va dire, 8-9 dernières années, donc j'ai eu l'occasion de pratiquer la conduite sur le périphérique, sur tout Paris. Et alors, c'est vrai que... Alors, je dirais que la conduite à Paris, c'est peut-être la meilleure école de la conduite, parce qu'aujourd'hui, je me sens capable. Depuis 20 ans que je suis à Caen, quand je retourne à Paris, je suis comme un poisson dans l'eau, alors que je pense qu'il y a beaucoup de provinciaux, quand ils vont sur Paris, qui prennent le périph, ça doit être assez stressant. Et donc, c'est vrai que moi, depuis que je suis installée à Caen, c'est le jour et la nuit au niveau de la circulation. Bon, nous, on a un périph de Caen qui est quand même... à certains horaires très très occupés, enfin avec beaucoup de trafic, mais c'est vrai que bon, il y a quand même un certain respect des autres conducteurs. Alors qu'à Paris, bon, vous êtes sur le périph, il y a 3 ou 4 voies, vous voyez une voiture qui va vous passer devant, faire des coups de poisson, doubler, ils vont de voie en voie et on les voit au loin. Enfin bon, tout ça pour gagner 3 secondes. Enfin bon, c'est assez hallucinant. Hein.
Le périph, c'est très traumatisant pour ceux qui conduisent peu ou qui sont en région, en province, et qui débarquent sur ce périph un jour de grand vent, si j'ose dire. c'est pas simple, le périph. Ça peut stresser. Ça peut stresser, le périph.
Voilà, le périph, c'est pas simple du tout. Déjà, pour y entrer, déjà, et puis pour en sortir aussi. Hein, parce que bon, il y a certaines bretelles, j'aime autant vous dire, vers la porte Maillot. Pour sortir de là, déjà, il faut y aller. Hein.
Vous avez combien de points?
Bah écoutez, Pascal, alors vous allez rire, mais je perds un point tous les ans.
Bah oui.
C'est-à-dire que je fais toujours... Alors, tous les ans, j'ai un excès de vitesse que bien souvent, je ne m'explique pas. Donc, je dois toujours être au-dessus un petit peu. Vous voyez, comme la dame tout à l'heure, elle disait, au lieu de 70, elle était à 78. Bah moi, ça doit être un peu le genre de choses que je n'ai pas percuté sur le moment. Je n'ai pas vu le flash. Puis, je reçois tout d'un coup une contravention.
Je suis comme vous. Ça, c'est sur l'autoroute. C'est-à-dire que sur l'autoroute, quand tu passes de 130 tout d'un coup à 110... à 90 et à 70, parce que tu traverses une ville, tu te fais piéger. Et sur la 11 voilà. et la 10, c'est des autoroutes sur lesquelles j'ai été fréquemment ces dernières années, tu passes à Tours, paf, tu prends le flash, etc. Parce que c'est à 70 alors que tu es encore à 90. Et ça, c'est assez piégeux. Est-ce que vous avez une mauvaise habitude, Béatrice, au volant ?
Alors, moi, une mauvaise habitude, disons que... Alors, mauvaise habitude, je ne sais pas. Enfin, ma fille me dit que je conduis très mal. Mmh. Alors, je suis en conduite accompagnée avec ma fille. Elle doit passer le permis là, dans un mois. Elle me dit, oh là là, maman, si tu devais repasser le permis aujourd'hui, mais alors je suis sûre que tu ne l'aurais pas. Bah, j'écoute peut-être, hein, il y a de fortes chances d'ailleurs.
Donc,
mais
vous ne reconnaissez pas une mauvaise habitude ?
Pas priori, une mauvaise habitude, pas... disons que... Alors, je dirais que la mauvaise habitude que j'ai, c'est les ronds-points. Je prends très, très mal les ronds-points.
Je les prends
à ma manière pour... voilà, je les prends à ma manière pour faire une fluidité du tour du rond-point. Mais bon, moi, je continue... Ah oui, non, vraiment.
Non, mais je blague,
mais sinon, oui. Et sinon, non, bah, c'est vrai que, bon, moi, la conduite en province, c'est quand même.
C'est plus calme. Merci, Béatrice. Comme il reste une ou deux minutes et que Michel attend depuis un moment, je ne voulais pas qu'on quitte l'émission sans qu'il nous dise quelques mots. Michel, 47 ans, Poissy, chauffeur de direction. Alors, lui, vous êtes un professionnel. Bonjour,
oui,
Michel.
Bonjour, Pascal.
Bon, est-ce qu'on conduit bien à Paris ?
À Paris, depuis le temps que je fais le métier, c'est devenu une catastrophe.
Vous trouvez qu'on conduit moins bien ?
À Paris, c'est une catastrophe. Là,
mais pourquoi, par exemple ? Quelle est la plus mauvaise des habitudes ?
Oh bah, les gens, ils sont chez eux. Je vais rester au milieu de la rue parce que je vais prendre la baguette au coin de la boulangerie ou... je vais glisser le feu orange à la parisienne, comme les fonctionnaires de police nous le rappellent quand on se fait attraper. Hein.
Mmh. Ça n'a pas toujours été le cas.
Non, avant, il y a quand même une augmentation de la population. Les technologies font que...
Oui, mais il y a moins de voitures dans Paris, par exemple, que dans les années 70.
Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire au niveau des chiffres, mais vous voyez avec les applications pour se... qui font concurrence au taxi, y a un nombre de chauffeurs qui a explosé. Avant, on n'était que quelques centaines ou quelques milliers de chauffeurs de mètre sur Paris. Maintenant, avec la carte professionnelle VTC, vous avez des milliers de chauffeurs qui travaillent avec les applications. Je ne dis pas qu'ils sont tous à mettre dans le même panier, hein, mais il y en a, c'est une catastrophe. Le code de la route, et je me demande comment ils font même pour transporter des gens. C'est aberrant, des fois on voit des trucs. Et même sans parler que d'eux, hein, il y a quelques minutes, ce que je disais à votre collaborateur à la Tour Eiffel, il y a un taxi parisien qui est sorti de ma droite, alors que j'étais limite sur la piste cyclable. Elle a failli m'emporter tout le côté droit du véhicule.
Merci Michel de ce dernier témoignage. Il est 14h24, vous le savez, c'est l'heure du débrief. Laurent Tessier, c'est une émission assez virevoltante, cher Laurent.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Il est mercredi.
C'était l'une de nos questions du jour. Êtes-vous favorable au pass sanitaire pour l'accès aux grands événements ? Êtes-vous prêt à présenter un justificatif de vaccination, un résultat négatif d'un test ? Oui pour Régis, chef d'entreprise, et tant pis pour les autres.
T'es pas vacciné ? Tu veux pas te faire vacciner ? Tu veux pas aller au cinéma ? Tu vas pas au cinéma. Les éternels râleurs.
Nous vous donnons aussi des informations très précises dans l'émission. Dernières infos sur les clubs libertins. Musique de circonstance, Greg Caranoni.
Les clubs libertins, par exemple, pourraient rouvrir le 19 mai. S'ils avaient une terrasse en extérieur, mais convenez que c'est assez rare qu'un club libertin ait une terrasse.
Mais il est peut-être possible que le préservatif soit la solution de tout.
Une remarque qui fait réagir notre réalisateur, Greg Caranoni, sait utiliser les bons mots.
J'ai juste noté que vous êtes très pointu sur le sujet de la réouverture des clubs échangistes.
Non, c'est des clubs libertins, soyons précis. Pardon. Pas de plaisanteries. Cabreuse, s'il vous plaît.
Oui, âme sensible, s'abstenir. Nous avons lancé tout de même ce midi la playlist des clubs libertins. J'ai demandé à la lune. Ah, Oui, Club Libertin, j'ai demandé à la Lune.
Messieurs, dames, les auditeurs, vous n'avez rien entendu.
Oh, quand même, très bon parallèle.
Pas vous, pas ça, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Bon, plus de 12 millions de Français vont partir pour ce week-end de l'Ascension. Un sujet qui ne concerne pas tellement notre réalisateur.
Chagrin avec vous, vous êtes un conducteur de trottinette.
Tout doucement pour Greg, c'est vrai qu'il est loin de la team voiture.
Vous êtes un pleutre en plus.
Moi je vous en prie, Michel a réagi à cette étude de la Fondation Vinci Autoroute. C'est en Bretagne que les automobilistes concèdent le plus conduire en sachant qu'ils sont au-dessus de la limite d'alcool autorisée.
Je vous appelle du Morbihan, quand même, qui est classé en Bretagne. Et j'ai la chance de travailler dans le Finistère qui est aussi en Bretagne. Alors, je ne pense pas qu'on boit plus que les autres. On a peut-être été plus victime de contrôle, etc. Donc...
À consommer avec modération et puis au volant, on s'énerve rapidement. 25% des automobilistes d'Île-de-France sont déjà descendus de leur voiture pour s'expliquer. 24% en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Vous-même, Pascal ?
Oui, je suis parfois descendu de ma voiture, oui.
Oh là là, DJ Pascal est dans la place, représente le 75. Bam bam bam, battle, qu'avez-vous fait face à l'autre automobiliste?
Oui, il y a des gens qui sont descendus, oui. Alors là, j'ai fermé ma porte à clé parce que je suis tout de suite et j'ai accéléré en partant vite parce que j'ai vu que j'avais rien fait, donc je tombais sur des drôles de loulous parfois en voiture.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson préférée des parents pendant 3 heures sur la route. C'est cadeau.
Formidable, Laurent. Flavie Flamand dans une seconde.
Non, je ne pleure pas. Me voilà.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole.